prévu, je te cite quelques extraits du livre Que ressentent les poissons. Alors ici, je suis à la page 95 et je vais te lire déjà une citation de Poissons, un livre écrit par D.H. Lawrence. L'eau, feu mouillé dans les grilles de tes ouïes. Donc les poissons sont-ils sensibles à la douleur? C'est une question qu'on peut se poser, compte tenu de leur aspect, de leur comportement et de leur appartenance au groupe des animaux vertébrés. Cela ne fait pas de doute pour certains d'entre nous, mais tout le monde n'est pas du même avis, loin de là. Personnellement, je n'ai eu connaissance que de deux sondages d'opinion sur la question. L'un d'eux réalisé aux États-Unis parmi des pêcheurs à la ligne et autres adeptes de la pêche récréative, et le deuxième en Nouvelle-Zélande. Dans les deux cas, un peu plus de la moitié des personnes interrogées considéraient que les poissons sont sensibles à la douleur. Tous les autres pensaient le contraire. La question de savoir si les poissons ressentent ou non la douleur est d'une importance capitale. Quand on songe au nombre astronomique, de poissons tués par l'homme, comme nous l'avons vu dans le prologue de cet ouvrage, si un organisateur est apte à ressentir la douleur, un organisme, pardon, est apte à ressentir la douleur, cela implique qu'il peut souffrir. Il est donc dans son intérêt de chercher à éviter douleur et souffrance. La sensibilité à la douleur suppose une expérience consciente. Qu'un organisme réagisse à un stimuli négatif par un mouvement de recul ne signifie pas forcément qu'il ressente de la douleur. Il peut s'agir d'un simple réflexe qui met en action nerfs et muscles pour mouvoir le corps, sans participation consciente. Par exemple, un patient hospitalisé, plongé dans une sédation profonde et donc incapable de ressentir la douleur, peut néanmoins se rétracter en présence d'un stimuli potentiellement nocif, comme le contact avec un objet brûlant ou l'application d'une forte pression. Ceci s'explique par l'action des nerfs périphériques qui est indépendante du cerveau. Les scientifiques utilisent le terme de nociception pour décrire un réflexe qui n'implique à lui seul ni conscience ni douleur. La nociception est un premier stade nécessaire, mais pas suffisant pour éprouver de la douleur. Celle-ci ne se déclenche que lorsque le signal perçu par les nocicepteurs parvient au cerveau. Je saute un peu certains passages, c'est juste pour. Parce que là, j'arrive à un passage un peu qui évoque une mémoire chez l'auteur. Quand j'étais petit, je n'étais pas très attentif, page 97, je n'étais pas très attentif en admirant les poissons d'un aquarium. Je ne les voyais pas comme d'autres êtres vivants, ils n'étaient pour moi que des créatures mouvantes et colorées. Mais petit à petit, je me mis à les observer de plus près. Et du coup, ils éveillèrent en moi plus d'intérêt. Aujourd'hui, lorsque je m'attarde devant la paroi vitrée qui sépare deux univers de la vie, je remarque qu'il y a de la méthode et de la structure dans leur déplacement et de l'organisation dans leur vie sociale. Même dans un aquarium de petite taille qui n'est qu'un piètre substitut de la complexité d'un habitat naturel, les poissons manifestent généralement des préférences pour les endroits où ils nagent et ceux où ils se reposent. Les poissons sont pleins de vie, c'est certain, mais sont-ils conscients? Être conscient implique de faire des expériences, d'y prêter attention et de s'en souvenir. Je répète celle-là parce que je la trouve intéressante sur la conscience. Être conscient implique de faire des expériences, d'y prêter attention et de s'en souvenir. Une créature consciente n'est pas seulement vivante, elle a une vie. Ce livre comporte de nombreuses données scientifiques qui tendent à confirmer l'existence d'une conscience chez les poissons. Mais parfois, une anecdote en dit plus long que toutes les sciences du monde. Voilà ce que me communiqua Anna Negron, une amie médecin de Pennsylvanie. Et donc là, il y a cet exemple, et après je vais m'arrêter. C'était en 1989. Je faisais de la plongée avec un masque et un tuba. En retournant sans me presser vers mon voilier à l'ancre, dans des eaux cristallines au large de la côte nord du port de Porto Rico, je me suis retrouvée nez à nez avec un mérou de plus d'un mètre de long. Il était si près que j'aurais presque pu le toucher. Son flanc gauche scintillait au soleil. J'ai cessé d'agiter mes palmes et je suis restée sur place. Nous étions tous deux immobiles, en suspens, à 30 cm à peine en dessous de la surface. Et nous nous regardions. Comme le courant m'entraînait, son grand œil a tourné vers son orbite pour ne pas lâcher mon regard. Cela a duré une trentaine de secondes. Peut-être qu'ils m'ont semblé une éternité. Je ne sais pas lequel de nous s'est éloigné en premier, mais que cela se sache. Quand je suis remontée à bord, une femme et un poisson avaient pris conscience l'un de l'autre. J'ai regardé des baleines dans les yeux depuis, mais la présence de ce poisson-là était plus forte. Et là, je termine la lecture et je reviens un petit peu sur ce qui se dit, en fait, hein, aussi sur le signe du poisson. Il y a ce regard doux, ce regard aimant chez les poissons. Il y a aussi cette particularité en termes de soins, de soins auprès des enfants ou de la façon de s'investir auprès des enfants, de presque se sacrifier pour les enfants, qui est intéressante chez le poisson. Et il y a aussi cette dimension paisible, coopérative, démocratique aussi. C'est, je t'avoue, pourquoi je te parle du poisson, c'est aussi parce que quand tu viens dans des espaces qui sont créés, proposés, dans lesquels ben voilà, les cours vont commencer à partir de... Je vais t'informer quand ce sera le cas. Je ne vais pas faire d'annonce, je ne vais pas honorer. Mais aujourd'hui, là, l'idée m'est venue de démarrer les cours. Je vais un tout petit peu modifier les titres des espaces pour tout simplement te dire aujourd'hui que ce seront des cours. Ce seront des cours que je vais donner d'astrologie quantique, d'individuation et aussi d'entrer dans cet espace de bienveillance envers soi, envers l'autre, dans la façon de communiquer, de se parler les uns les autres, dans la façon d'entrer dans une forme de co-création, de coopération aussi, parce que pour pouvoir le faire, c'est important qu'il y ait du respect, un grand respect, une grande écoute, qu'il y ait cette circulation de l'amour. Ce que je remarque, c'est que lorsqu'il y a beaucoup d'autocritique chez beaucoup de signes de la Vierge d'ailleurs, j'ai le signe de la Vierge hein, qui est présent chez moi, dans ma maison 5, la maison de l'amitié, du rayonnement, de la créativité, l'expression créative, de l'enfant intérieur, donc je sais très bien ce que c'est. J'ai grandi même dans un milieu où la critique était... pas de mise, mais était très présente. Donc, chez moi, avec cette essence de poisson, comme véritablement une ultra-sensibilité à là où la douceur est partie, la critique se fait acerbe. Ce sont des milieux que je fuis, en fait. C'est pour ça que j'ai créé des espaces... où on peut se dire les choses, on peut partager ce qu'on ressent, on peut se connecter, bien sûr, de manière sincère, tout en ayant aussi toujours une bienveillance. Et je terminerai par ce message que j'ai entendu. Je recite John Wineman, ça fait deux fois cette semaine. C'est parce que vraiment, je trouve que l'essence, en tout cas le poisson chez lui, je le ressens beaucoup et je vois comment il opère ce poisson. Et j'aime beaucoup parce qu'il introduit le tantra par exemple, cette capacité à se connecter à l'énergie masculine et féminine qui est très belle, qui est très 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 belle. J'adore, j'ai vraiment, je trouve ça magnifique. Et ce qu'il disait, c'est quelque chose qui m'a touchée véritablement. Et ce qu'il t'a dit, c'était que je me rappelle, c'est un message par rapport au cœur et le fait d'ouvrir son cœur et de s'autoriser aussi à exprimer une forme de vulnérabilité en disant j'aime ma honte, j'aime ma culpabilité, je n'en ai plus peur. J'aime ma honte, c'est pas directement ce qu'il disait, mais ça ressemble à ça. Je mets de l'amour, je mets du pardon, je mets de la compassion sur la honte que je ressens, sur la culpabilité, sur les besoins qui m'envahissent, sur les désirs qui parfois prennent ou voudraient prendre toute la place. Je mets de la douceur sur mes attentes. Je donne à mon cœur la nourriture dont il a besoin pour se sentir joyeux, mais aussi l'espace dont il a besoin pour exprimer sa colère. Non, pas sa colère, ça c'est plutôt une émotion qui est passagère, messagère aussi, pour dire stop. Et souvent pour dire un message, c'est souvent un message du corps qui dit stop, au mental, souvent, enfin voilà, à notre autorité extérieure qui est mentale, qui est là pour observer et qui n'a pas forcément conscience du fait que le corps il a un autre rythme, l'âme a un autre, est sur un autre plan de conscience et le corps il a un autre rythme, le corps il a besoin parfois d'autres choses en complément. Et j'aime beaucoup ces espaces dans lesquels que je m'offre et puis que je voudrais prolonger et te partager, dans lesquels c'est complètement ok d'observer à quel point des fois il y a des connexions avec le corps, sans pour autant se taper dessus, se juger. Je mets de la douceur sur les jugements, ceux des autres et les miens aussi. Je mets de la conscience sur les expériences parce qu'elles étaient là pour m'enseigner. Parce que dans la vie, soit on apprend, soit on gagne en confiance, en conscience, en joie, en douceur, en mutation positive. Et voilà, je voulais juste partager ça parce que parfois c'est compliqué. C'est compliqué. Je me rappelle une amie très chère avec qui j'ai coupé les ponts un temps. Avec qui j'ai coupé les ponts, mais pas vraiment, parce que sur le plan de la conscience, c'est pas possible. Je pense que nous nous chérissons à vie. Nous nous chérissons à vie, même si des fois il y a des comportements qui font que besoin de prendre de la distance. Pour peut-être ne pas dire un mot de trop, pour préserver la beauté de ce qui s'est passé, pour laisser à chacun le temps de maturer, de tirer des leçons de ses expériences, pour revenir dans le lien sans culpabilité, pour revenir dans le lien en allant comprendre, demander finalement à l'autre, mais où étais-tu à ce moment-là? Moi j'étais là, mais toi t'étais où? Pourquoi tu m'as pas dit que tu souffrais? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était difficile pour toi? Pourquoi m'as-tu laissé penser? Et pourquoi est-ce que c'était si dur pour toi de le dire? Qu'est-ce que tu aurais pu, voulu, souhaiter? Qu'est-ce qui aurait été plus facile pour toi, dis-moi? Parce que là, aujourd'hui, on peut muter. On peut écrire une autre histoire. On a cette capacité, on a cette force en nous. Alors, qu'est-ce qu'on écrit maintenant ? Quel est le rêve, le prochain rêve, dans lequel on peut, qu'on peut matérialiser aussi dans l'autre monde, celui où il fait jour, celui où on sort du rêve pour entrer dans la réalité. Comment est-ce que c'est ? Raconte-moi. Tu vois, c'est aussi ça le storytelling vibratoire, c'est... Et ça, ça se pratique partout, avec ton partenaire, avec tes équipes, quand tu es entrepreneur, avec ton staff, avec tes enfants, avec toi-même, avec ton enfant intérieur, avec tes parents intérieurs, parfois un peu exigeants, pour moi, avec tout le monde en fait, avec la vie tout simplement. Avec la vie tout simplement. Et toutes ces forces animatrices sont des forces qui font partie de la création de la vie. Et toutes ces forces sont elles-mêmes animées par ce qui est plus grand que toutes ces forces, qu'elles soient planétaires, astrologiques, etc. Qu'on soit bien clair en fait. Je parle de ça aussi. Simplement, je n'aimerais enfermer personne et que chacun se sente accueilli ici. Au maximum de ce qui est ok pour lui. Je ne suis pas dans faire plaisir à tout le monde, je suis dans offrir un espace où c'est ok d'être soi et un espace dans lequel ma façon de transmettre et de transmettre sur l'amour et de transmettre mon amour aussi de la vie, de toute forme de vie, c'est elle est fixe, elle est toujours la même en fait, ça bougera pas. Simplement, j'utilise différentes casquettes, différents rôles, et c'est aussi une invitation que je fais dans des rencontres que je propose, que ce soit celle des auditeurs sur l'individuation ou les différents autres espaces. Donc, je t'invite à aller regarder ces différents espaces. De toute façon, moi, je vais commencer. Comme je t'ai dit, la semaine prochaine, à tous les animer, c'est-à-dire qu'il y ait que si tu veux rentrer dans cet espace en cours de route, eh bien, c'est tout à fait possible. Il y aura toutes les rencontres qui ont été enregistrées et eh bien seront disponibles en replay aussi. Voilà ce que je voulais te dire concernant les poissons, concernant notre capacité à intégrer ce poisson. Tout dépend de la maison astrologique dans laquelle il se situe, il se trouve. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur le site bit.ly/monaura, à t'abonner parce qu'il te faut un abonnement pour accéder à ces informations. Et si tu souhaites être guidé, tout simplement, remettre de la compassion, remettre de la joie, de la beauté, de la douceur, toutes les belles qualités du poisson, la capacité à rêver et à surtout accomplir ses rêves, parce que les poissons sont aussi des magiciens, en plus d'être des guérisseurs du zodiaque. Eh bien, si tout ça te parle, eh bien, rencontre l'individuation des auditeurs du podcast, ça c'est pour tout le monde. Et quand tu es manager, speaker, conférencier, leader, dirigeant et que tu souhaites un accompagnement pour la transmission de tes messages, qu'ils soient humanistes ou humanitaires, parce que tu travailles pour une ONG, parce que tu travailles pour le gouvernement dans une structure qui est une structure ou un programme de solidarité ou un programme solidaire ou un programme d'éducation populaire, peu importe, sache qu'il y a aussi des espaces pour toi, que tu souhaites pitcher ton projet, aller chercher du financement, que tu souhaites construire ton propre storytelling, ton programme, ton projet Voilà, c'est tout. Ce sont aussi des espaces disponibles pour ça. Donc je parle ici à deux publics. Ce sont pas, ils sont liés. Ce sont les porteurs de projets, les entrepreneurs, les dirigeants, les conférenciers, les astrologues peut-être qui souhaitent ajouter, intégrer le human design à leur pratique. Je parle aussi aux praticiens de santé alternative et aussi à vous, à toi, qui a peut-être 17 ans, qui ne va pas forcément bien et qui a besoin de te comprendre, de te connaître et d'avoir parfois du réconfort et retrouver l'espoir. Donc ici se croisent des mondes, des personnes qui ont des liens et on peut passer à l'étape suivante qui est connecter ces personnes. Donc si tu veux entrer en lien avec des gens qui peut-être peuvent faire basculer ta vie, c'est possible. Si tu souhaites témoigner de l'impact de ce podcast dans ta vie et ainsi permettre à ce qu'il soit soutenu aussi et que je continue à produire des contenus gratuits pour toi, pour t'aider à passer un cap, eh bien, n'hésite pas à envoyer à passer par le site et à m'envoyer un message, ton témoignage. C'est toujours important parce que chaque contribution compte. Et puis, tu as la boutique. Si tu souhaites encourager le podcast, la production, il y a la boutique Terre en Joie, je mets le lien aussi. Et si tu es bien écoute, flamme jumelle, que tu es thérapeute, manager, leader, et que tu t'es accordé un petit temps d'écoute dans ta très chargée dans ton très chargé agenda, eh bien merci déjà pour ton écoute, pour ton intérêt, ta confiance, et voilà, il y a aussi des rencontres prévues pour toi. Ainsi que pour les couples et pour les flammes jumelles, l'expérience de connexion authentique à soi et à l'autre, et initiation naturelle à l'astrologie quantique, ça c'est pour les pros. Donc tous ces espaces sont des espaces initiatiques. Chacun trouve ce dont il a besoin dans ces espaces, et le point commun, c'est le processus d'entrée dans cette joie intérieure qui ne demande, qui ne requiert rien d'extérieur ni de personne. Pour autant, pour pouvoir y rentrer, c'est important de faire le ménage dans sa vie, dans ta vie, concrètement, le ménage dans ta vie, dans ta maison, maison intérieure, maison extérieure aussi, c'est important. De faire le tri aussi, c'est important de d'être au clair avec soi. Je ne parle pas de certitude, parce que je ne fais pas partie des gens qui sont censés être certains, non. Mais par contre, j'ai une direction, je sais où je vais. Et j'utilise plein d'approches, je passe par plein d'étapes pour amener vers ce chemin d'initiation. À l'individuation. C'est ça que je colle à joie intérieure. C'est-à-dire que je suis ma propre autorité. Je ne dépends pas d'une autorité extérieure. Pour autant, ça ne m'empêche pas d'écouter les autres. Et ça ne nous empêche pas hein, d'écouter les autres, d'être celui qui, non pas se compromet, mais qui s'adapte, et qui s'adapte, mais pour une bonne raison. Qui s'adapte, qui mute en fait, qui change, qui transforme une situation. Et pour cela suppose une écoute de tous les avis pour comprendre ce dont a besoin un groupe, une société, une entreprise, une équipe, des clients, une audience. Et ça, si tu ne me le dis pas, c'est compliqué. Donc moi, je vais continuer à parler de mes histoires, mais c'est intéressant aussi qu'à un moment donné, un échange. Et pour cet échange, je t'invite à ces espaces. Des intervenants viendront, les intervenantes viendront dans ces espaces aussi. Et parce que je ne peux pas tout faire. Et ce sera aussi l'occasion de les rencontrer. Donc, à très bientôt. Prends soin de ton précieux souffle. Namasté. Merci.